Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous.
Hey, you know what?
Deuxième temps ce mardi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à Freud, au nom du seul plaisir de le lire ou de le relire. Après Elisabeth Roudinesco, venue hier vous raconter par morceaux la petite vie du grand homme, c'est Laurence Kahn qui est avec nous cet après-midi pour évoquer l'interprétation des rêves, c'est-à-dire son premier chef-d'œuvre. Il y a le rêve de l'injection faite à Irma, le rêve du monsieur connu qui entre dans la chambre, le rêve du rire et les rêves dégoûtants, le rêve du verre d'eau, le rêve des animaux, du fils perdu, de la fille unique, de l'oncle Joseph, de la loge à l'opéra, du piano qu'on accorde, des hannetons qui s'écrasent, des garçons qui se chamaillent. Il y a le rêve du cyclamen, du marchand de légumes, de la femme qui attend, du mari qu'on arrête, les rêves de dette et de redingote et les rêves des enfants, des rêves solaires, des rêves aqueux, des rêves absurdes, agoraphobes et même des rêves d'ambitieux. L'interprétation des rêves est un festival, une orgie logique, une bacchanale où tout le monde condense. C'est le diable dans la boîte qui jaillit malgré le cadenas des censeurs. Le rêve, c'est un bal masqué. Ce qu'on redoute nous fait soudain mourir de rire. Ce qu'on refoule devient extravagant. Le sexe est un chapeau de paille et l'orgueil à la gueule d'un jet d'urine. Le rêve est un peu comme le fou des pièces de Shakespeare. C'est en délirant qu'il a raison et c'est en excrément qu'il dit vrai. Bonjour Laurence Kahn.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture. On va parler de l'interprétation des rêves avec vous. Hein, ce livre qu'il a écrit, qu'il finit d'écrire en 1899 hein, et que son éditeur a opportunément daté de 1900. Alors, une première chose, premier élément qu'il est nécessaire de poser, Freud dit ceci en préalable à l'interprétation des rêves. Il dit « Il me faut poser l'affirmation qu'on peut trouver dans chaque rêve un rattachement aux expériences vécues. En d'autres termes, on ne rêve jamais de ce qu'on n'a jamais vu. On ne rêve pas de ce qu'on n'a jamais vu. »
Oui, de ce qu'on n'a jamais vu. Il me semble que la phrase que vous choisissez comme incipit à l'interprétation des rêves, d'ailleurs ce n'est pas l'interprétation des rêves, mais l'interprétation du rêve. C'est très curieux l'histoire de ce titre. Ça a été la science des rêves, ça a été l'interprétation des rêves. Finalement, la traduction, c'est l'interprétation du rêve, au sens de l'universalité du rêve.
Alors, enfin, c'est une universalité tellement différenciée. Il y a plusieurs centaines de rêves racontés là-dedans, que ce soit les siens ou ceux de ses patients. Y a-t-il une doctrine du rêve là-dedans, ou est-ce aussi pour le plaisir de multiplier les rêves qu'il a écrit ce livre ?
Je crois qu'il y a une doctrine du rêve, véritablement. Et ça n'est pas une doctrine au sens simplement d'une théorie du rêve. Je crois que c'est une doctrine au sens où il y a une doctrine qui s'élève très lentement sur la clinique, sur les butées de la clinique. C'est un livre clinique, l'interprétation du rêve, et qui donne en même temps toute l'armature de ce qu'est finalement une interprétation en psychanalyse.
C'est le début de la psychanalyse, hein. C'est la naissance de la psychanalyse, véritablement, on peut le dire. C'est le passage de la neurobiologie, pour un homme, pour un scientifique, cette science plus délicate, peut-être plus floue, moins précise, qu'est la psychanalyse.
Alors effectivement, on peut dire que c'est la naissance de la psychanalyse, encore que, à mon avis, on a tout intérêt à la faire remonter un tout petit peu avant.
La correspondance avec Fliss, vous voulez dire ?
Voilà, exactement, autour de 1895.
À la mort de son père, 96 ?
Voilà, à peu près. Mais je dis 1895 parce que c'est le moment où Freud commence à articuler une métapsychologie et les butées cliniques très importantes qu'il rencontre dans la cure des hystériques. Et c'est ça qui va le faire lâcher, au fond, une première théorie du traumatisme comme élément pathogène, pour arriver à cette idée qu'il y a une autonomie de l'acte psychique. Et il va se servir, et d'une certaine manière, il ne cessera de le faire, tout au long de son œuvre, il va se servir de la pathologie quotidienne qu'est le rêve. Oui. C'est-à-dire que nous sommes tous des rêveurs. Il recommencera la même chose avec la psychopathologie de la vie quotidienne autour du lapsus, etc.
C'est la fameuse lettre, ce à quoi vous faites référence, là, le renoncement, finalement, à ce qu'on a appelé la théorie de la séduction infantile, c'est la fameuse lettre à Fliss dans laquelle il dit « Je ne crois plus à ma neurotica », c'est-à-dire la théorie selon laquelle, à l'origine de toute névrose, il y aurait un traumatisme identifiable, vérifiable, et qui serait en l'occurrence la tentative de séduction d'un enfant par son parent.
Oui.
Théorie fausse, donc, qu'il abjure.
Il y renonce. Il ne l'abjure pas. Ouais. Il dit « je renonce à ma neurotica ». Ça rejoint très précisément votre première question. Parce que l'argument principal que donne Freud pour expliquer ce renoncement à Fliss, c'est qu'il n'y a aucun moyen de différencier un souvenir réel d'une fiction investie d'affect. Et donc, il se rend compte très lentement que dans des cures bien menées, en réalité, on se retrouve face à ce qu'on pourrait considérer comme des faux souvenirs et qui se révèlent doués d'une vérité qui n'est pas celle de la réalité, qui est douée de la réalité, de l'effectivité du fantasme. C'est ça qui lui fait abandonner la neurotica. Pourquoi est-ce que je dis que ça rejoint votre première question? Parce que...
L'idée qu'en somme, dans le rêve, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais quand même, le problème, c'est quel va être le plan de réalité que va faire fonctionner le rêve. Quand Freud dit « il n'y a rien dans le rêve qui ne puisse être attaché à des expériences vécues », tout problème est ce qu'on va mettre dans le terme d'expérience. Si on entend « expérience psychique », ça peut être « expérience de désir ». Si on parle d'expérience au sens du traumatisme tel que Freud l'entendait, mettons, avant 1895, ce sera un événement réel de séduction. Et enfin, il faut bien se rendre compte que pour Freud, ça se rattache sous la forme de l'usage des expériences qui est littéralement détourné et qui vole en éclats sous le coup du travail du rêve. Car c'est quand même bien ça l'armature de l'interprétation du rêve. C'est de quelle manière, au fond, tout notre rapport à la réalité est totalement bouleversé par l'expérience onirique qui nous donne à voir quelque chose. Et cependant, se donner à voir ne se rattache pas directement à une expérience de la réalité. C'est un donner à voir. Alors, vous parliez de bal masqué. Je ne suis pas sûre que ce soit un bal, car en même temps, la démonstration...
J'ai dit bal parce que tout le monde y condense. C'était une façon de jouer avec les mots, tout
D'accord.
simplement.
Très
Juste
bien.
Parce que le rêve fonctionne chez Freud selon la condensation et le déplacement. On va voir d'ailleurs ce que ça peut vouloir dire. Mais c'est en ce sens-là que je parlais de balle et de masque également, dans la mesure où le rêve, me semble-t-il, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, fonctionne comme la métaphore en littérature. C'est-à-dire que c'est une traduction d'un fait qui en dit davantage sur la réalité que sa seule restitution ou sa copie conforme. Et qu'en somme, l'exercice du rêve non seulement témoigne de la réalité, c'est-à-dire non seulement n'est pas l'arbitraire d'un corps qui dort et qui, comme on le pensait avant Freud finalement, et qui s'abandonnerait, se laisserait aller, en somme ferait n'importe quoi ou rêverait n'importe quoi, mais c'est également, plus précisément, une espèce de langage, un style qui non seulement peut être raccordé à la réalité, mais qui même nous renseigne plus précisément sur elle que sa simple retranscription ou sa simple description.
Ça n'est pas la même réalité. C'est toute la différence entre la réalité du monde commun, du monde du dehors, comme dit l'allemand, le Außenwelt, qui revient constamment chez Freud. C'est la différence entre cette réalité-là et la réalité de l'effectivité du désir qui vient infiltrer la réalité du monde. Cette chose qui fait qu'on va voir comme ceci et non pas comme cela. Donc, d'une certaine manière, la question de la réalité est une façon d'entrer dans la grande découverte de Freud avec l'interprétation du rêve, qui est la découverte de l'existence d'une réalité psychique qui n'a rien à voir avec la réalité matérielle.
Est-ce que le terme de transfiguration vous convient pour qualifier cette expérience ?
Non, pas du tout. Pour une raison assez précise, c'est que pour parler de transfiguration, il faudrait penser qu'il y a un original qui est transfiguré. Or, la particularité du travail du rêve, c'est que d'une certaine façon, on ne dispose jamais que du contenu manifeste. Donc, on a, mettons, l'objet transformé, mais l'original, en tant que tel, n'existe pas. On le construit à partir de la somme des opérations que l'analyste et le patient font ensemble, qui permettent de remonter le fil des arrière-pensées qui ont contribué à la fabrication du rêve.
C'est ainsi que du contenu manifeste, on accède au contenu latent.
Absolument.
Quatuor Talisch, La nuit transfigurée de Schoenberg, dans les nouveaux chemins de la connaissance. C'est Laurence Kahn qui est avec nous pour évoquer aujourd'hui l'interprétation des rêves, l'interprétation du rêve, c'est selon, dans le cadre d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à Freud. Alors on va travailler ensemble, Laurence Kahn, sur cette idée de condensation et de déplacement. Et peut-être pour la donner à comprendre, je voudrais renvoyer, avant qu'on aille un peu dans le cœur de quelques rêves, justement, renvoyer à un passage tout à fait théorique de l'interprétation des rêves, et qui d'ailleurs en un sens peut être tenu pour limité à ce titre, dans la mesure où il a l'air un peu dogmatique. Il dit ceci: marche, échelle, escalier, en l'occurrence le fait de s'y déplacer, aussi bien vers le haut que vers le bas, sont des présentations symboliques de l'acte sexué. Des parois lisses auxquelles on grimpe, des façades de maisons le long desquelles on se laisse glisser, correspondent à des corps humains, debout, répétant vraisemblablement dans le rêve le souvenir du petit enfant qui grimpe après ses parents et après les personnes qui prennent soin de lui. Table avec le couvert mis et planche, sont des femmes, sans doute par la loi de l'opposition qui supprime ici les rondeurs du corps. La table et le lit, de façon générale, résument tout le mariage. Le chapeau d'une femme doit être très souvent interprété avec certitude comme organe génital et, à vrai dire, celui de l'homme. Dans les rêves des hommes, on trouve souvent la cravate comme symbole du pénis. Et puis, autre symbole du membre masculin, charrue, marteau, fusil, revolver, poignard, sabre... Et ainsi de suite, jouer avec un petit enfant, battre le petit, etc., sont fréquemment des présentations oniriques de l'onanisme. Et pour présenter symboliquement la castration, le travail du rêve se sert de la calvitie, la coupe de cheveux, la chute des dents, la décapitation, et ainsi de suite. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce folklore, ce bestiaire invraisemblable qu'il déduit de ses rêves, de l'analyse de ses propres rêves, Freud en fait quasiment une théorie. Et c'est, je voudrais qu'on commence par là, justement, pour éliminer le reproche qu'on peut faire à Freud et savoir dans quelle mesure ce reproche est valide. Est-ce que Freud, en opérant une taxinomie si précise des rêves, de leur corrélat dans les rêves et de la réalité à laquelle ils sont censés correspondre, est-ce que Freud ne pêche pas par dogmatisme ?
Alors là, vous prenez les choses par un biais tout à fait particulier à l'intérieur de l'interprétation du rêve, qui est ce grand chapitre de la présentation par les symboles, qui est en grande partie un chapitre qui a été ajouté dans l'édition de 1913-1914, très bizarrement, au moment même. Alors, il a été d'une certaine façon inspiré par le travail commun avec Jung, et il paraît au moment même de la rupture totale entre Freud et Jung. Si je précise ça, c'est qu'effectivement, le problème que vous soulevez, c'est-à-dire celui d'une espèce de répertoire qui fait retomber littéralement Freud dans le principe d'une clé des songes, qui est cela même qu'il a critiqué au moment où il se lance dans la conception en 1897, 1898, 1899, où il se lance dans la conception du livre du rêve. Cette clé des songes, au fond, revient très bizarrement par le biais de l'intervention de Jung, par le biais aussi de la formidable captation à l'époque de la passion que connaissent absolument tous les intellectuels allemands pour l'ethnologie, l'anthropologie, l'archéologie. C'est-à-dire que la métaphore archéologique fonctionne à plein dans ce répertoire. Et pourtant, Et pourtant, lorsque Freud reviendra sur ce répertoire ultérieurement, il précisera bien que d'une certaine façon, le symbole est embauché dans les rêves à haute pression de résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversation entre le rêveur et son rêve, dans le cas du symbole, alors que tout le livre du rêve, ce qu'il appelle le livre du rêve, est entièrement centré autour de la formidable conversation du rêveur et de son rêve pour réussir à fabriquer quelque chose qui ne soit jamais de l'ordre de la traduction.
Mais précisément, Laurence Kahn, est-ce qu'on ne touche pas du doigt là, ici, la difficulté même de la psychanalyse? Est-ce qu'il n'y a pas une tension, mais alors une tension violente, à l'intérieur même de la psychanalyse, et qui justifierait d'ailleurs les scissions qui ont suivi Freud, entre une démarche résolument empirique, résolument attentive à la parole du patient, Freud, hein, décrit comme le premier docteur qui écoute ses patients, et de l'autre côté, une ambition systématique, une doctrine dont il veut absolument préserver, il faut bien le dire, le dogme. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la psychanalyse, dans la personne de Freud, ces deux aspects, ces deux dimensions? Et est-ce que cette tension n'explique pas justement cette difficulté, les difficultés qu'ont eu les écoles à se constituer ensuite et à ne pas rompre entre elles?
Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit dans l'ambition systématique que la tension réside. Ça n'est pas dans le système, d'abord parce que c'est un système qui bouge énormément. Je pense que ça a dû apparaître très, très précisément à tout lecteur d'une biographie de Freud. Donc c'est un système qui bouge beaucoup, dont Freud revendique le fait qu'il est en appui sur la clinique, qu'il est toujours open to revision, c'est-à-dire qu'il est toujours ouvert à la révision et il ne se privera pas de revenir sur des fondements même de sa première topique pour élaborer la seconde topique. Mais vous avez raison, il y a une très puissante tension qui tient à l'objet analytique lui-même. Prenons un exemple en partant de celui que vous venez de donner autour des symboles. Au fond, ou bien on va se retrouver dans un système de répertoire, donc avec un lexique d'une certaine manière, où le langage est un outil de traduction. Ou bien on va donner la primeur à l'action du rêve, c'est-à-dire à l'activité onirique, pas du tout à la signification, mais ce à quoi il est destiné, c'est-à-dire à faire croire en faisant être là durant le sommeil, c'est-à-dire qu'on va donner la primeur à la réalisation hallucinatoire de désir. Et là, on se rend compte immédiatement que
tout rêve est l'expression d'un désir. Hein.
Oui, mais
ça, c'est immuable.
Tout rêve est l'expression d'un désir infantile, l'expression déguisée d'un désir infantile, mais tout le problème est ce qu'on va mettre dans expression. C'est-à-dire que si on fait basculer l'expression du côté de la signification, on est immédiatement sur le versant d'une traduction. D'une certaine façon, le langage continue d'occuper assez tranquillement sa fonction. Maintenant, si on attribue à la notion d'expression simplement l'idée que le rêve présente en image quelque chose de totalement énigmatique, dont on n'a absolument pas la moindre idée en tant que rêveur, de ce qu'il peut signifier, puisque la présentation est déguisée, mais que la présentation en tant que telle a un but, a un dessein. Combien de fois dans la Traumdeutung, dans l'interprétation du rêve, combien de fois il y a ce terme du dessein, du but, de l'intention du rêve? Que la seule intention du rêve est de réussir à présenter en faisant croire, c'est-à-dire en supprimant la dimension du souhait, pour la remplacer par une présence comme si c'était véritablement réalisé, c'est-à-dire vraiment une fonction hallucinatoire, selon que l'on donne telle valeur au terme d'expression ou au contraire telle autre, on va se retrouver dans deux champs de la compréhension analytique complètement différents.
Un tertre. Sur celui-ci, quelque chose, comme des cabinets en plein air, un banc très long à son extrémité, un grand trou de cabinet. À l'arrière, tout le rebord extérieur est recouvert de petits tas d'excréments de toutes les tailles et de tous les degrés de fraîcheur. Derrière le banc, un buisson. J'urine sur le banc. Un long jet d'urine rince et nettoie tout. Les plaques d'excréments se détachent facilement et tombent dans l'ouverture, comme si à la fin, il restait encore quelque chose. Pourquoi, dans ce rêve, n'ai-je ressenti aucun dégoût? Je cite ce texte parce qu'il est dans l'interprétation des rêves et que c'est un rêve de Freud lui-même. Et c'est un rêve dont Freud se sert pour montrer que les rêves sont parfois contradictoirement l'expression d'un désir, c'est-à-dire qu'un rêve objectivement dégoûtant ne l'est subjectivement pas et peut désigner tout à fait autre chose. Donc il y a, dans l'ordre de l'interprétation des rêves, Laurence Kahn, quelque chose qui est de l'ordre d'une, j'allais dire, une subversion interprétative, ou en tout cas d'une herméneutique tout à fait paradoxale, où ce qui peut sembler le plus répugnant n'y correspond pas du tout en réalité, si j'ose dire. De la même façon, ce qui peut sembler le plus terrifiant ne l'est pas, ou ce qui peut sembler le plus drôle est en réalité le plus terrifiant. Que signifie cette façon qu'ont les rêves, justement, non seulement d'exprimer un désir, mais de l'exprimer par une forme qui, en somme, ne correspond pas à ce qu'objectivement le désir voudrait exprimer?
Pour dire les choses extrêmement simplement, un désir refoulé doit trouver satisfaction auprès de la conscience endormie. Ce désir va donc lui être présenté, mais dans des termes tels qu'il est devenu méconnaissable. Dans le cas du rêve des grands buissons et du trou de cabinet, au fond, le dégoût, c'est la surface qui vient dissimuler le contenu refoulé. C'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse, pour ainsi dire, dans un des autres rêves, Princeps, alors celui-là qui est le rêve de l'oncle à barbe jaune, où Freud montre qu'il ne faut absolument pas se fier à l'affect du rêve. D'une certaine façon, c'est pour ça que je le fais se rejoindre avec l'exemple.
On y venait, mais allez-y, oui, allez-y.
C'est-à-dire que la tendresse éprouvée pour l'oncle dissimule en réalité des sentiments hostiles. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre façon d'introduire cette question-là, c'est lorsque vous en parlez en termes de subversion interprétative ou d'herméneutique. Car je ne suis pas sûre que ce soit de l'ordre de l'herméneutique, justement. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on évoquait précédemment. C'est un déroutement complet de tous les éléments, au fond, de tous les systèmes d'accentuation. C'est-à-dire que les éléments du désir refoulé sont bien présents, mais ils ont perdu leur charge affective et on a le rêve, les opérations du rêve, le travail du rêve, puisque finalement le rêve, ça n'est jamais que le travail du rêve. Le travail du rêve a déplacé les accents. Donc, on va avoir un très fort accent sur dégoût ou un très fort accent sur tendresse amicale, alors qu'en réalité, ce qui est le plus important et qu'on va réussir, que Freud parvient à retrouver, c'est par exemple les pensées tout à fait inamicales, voire parfaitement hostiles, qu'il éprouve à l'égard de l'oncle.
En l'occurrence, c'est l'oncle Jacob.
Voilà.
L'oncle Jacob. Alors, je voudrais qu'on restons-en au rêve soi-disant dégoûtant. Et je voudrais qu'on entende ensuite la parole de Pontalis, justement, sur le travail d'éclaircissement du rêve par Freud. Voici ce qu'il dit. Donc, on a en mémoire donc, ce rêve hein, où Freud urine sur un banc et du long jet d'urine qui rince et nettoie tout et les plaques d'excréments qui se détachent. Pourquoi dans ce rêve, dit-il, n'ai-je ressenti aucun dégoût? Parce que, comme l'analyse le montre, les pensées les plus agréables et les plus gratifiantes avaient collaboré à la production de ce rêve. Dans l'analyse, me viennent aussitôt à l'idée les écuries d'Augias qu'Hercule nettoie. Cet Hercule, c'est moi. Le tertre et le buisson ressortissent à Aussy, où séjournent actuellement mes enfants. J'ai découvert l'étiologie infantile des névroses et par là préservé mes propres enfants de la maladie. Le banc, à l'exception naturellement du trou des cabinets, est la fidèle imitation d'un meuble dont une patiente qui tient à moi m'a fait cadeau. Il me rappelle en quelle estime mes patients me tiennent. Ainsi, même le musée des excréments humains est susceptible d'une interprétation réconfortante.
On peut dire que le travail de Freud, entre autres, a été justement d'éclairer le rêve, au fond, de mettre un peu de lumière dans un monde qui était considéré comme foncièrement obscur et assez souvent assez redoutable. Tout ce qui sort dans nos rêves, qui est prudemment dissimulé dans la vigilance de nos jours. Je sais que vous aviez bien aimé une phrase que j'avais trouvée dans les cahiers de Valérie.
Oui.
Valérie dit, on ne devrait pas dire j'ai rêvé, mais il a été rêvé. En fait, nous disons tous, hein, j'ai fait un rêve cette nuit, quand on s'en souvient. Donc on isole et on s'approprie. On isole quelque chose qui est en fait dans un flux continu. Je ne sais pas si nous rêvons toute la nuit, mais en tout cas, c'est un flux d'images, un voyage, c'est une pérégrination. Et puis, on extrait de ça un rêve ou un fragment de rêve qui forme plus ou moins un tout, qui est une séquence qui, même si elle paraît absurde, qui a quand même une relative cohérence dans le récit, en tout cas, qu'on en fait. Et on se l'approprie. J'ai fait un rêve, alors que, à mes yeux, pour ça que la phrase de Valérie m'avait bien séduit, c'est un jeu qui n'est plus un jeu, c'est il a été rêvé ou ça a été rêvé, et puis vite j'essaye de me le réapproprier. On y est, c'est quand même, mais je ne dirais jamais à quelqu'un, c'est quand même vous qui avez rêvé ça, n'est-ce pas, pour bien montrer qu'il en est le sujet, voire le responsable. Donc c'est quelque chose qui nous échappe, et qui vient de nous sans venir d'un jeu bien localisé. Il n'y a pas de propriétaire du rêve. Heureusement, parce que c'est ce qui nous empêche justement d'être fixés à notre identité apparente, sociale. Là, on dit ça, c'est moi. Le rêve, c'est plus du côté de ça que du côté de moi.
Ligeti, Bagatelle numéro 1 par le quatuor Debussy sur France Culture. Et juste avant, la parole de Pandalis expliquant, c'est tout à fait étonnant, Laurence Kahn, hein, que on a beau se prendre pour le sujet de son rêve, le rêve nous échappe, parle d'autant mieux de nous que nous n'en sommes pas les auteurs, il n'y a pas de propriétaire du rêve, il n'y a pas de moi qui rêve, hein, en somme.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Freud dit très bien, c'est vraiment l'étranger à l'intérieur de nous, c'est sur le terrain de la plus grande familiarité, la plus grande opacité. Et
en Pandalis
le montre, le dit très très bien.
Dans des formules très heureuses d'ailleurs, mais en même temps cette étrangeté inquiétante, si j'ose dire, l'étrangeté dont nous faisons preuve ou qui est en nous, cet étranger donc, qui sommeille en nous et qui s'éveille quand on rêve, cet étranger-là n'est constitué que de ce dont, là encore, nous-mêmes avons fait l'expérience.
Oui, avons fait l'expérience sous la forme de faire l'expérience d'un désir qui ensuite sera si drastiquement condamné qu'il n'aura plus voix au chapitre et ne pourra faire retour que par des voies latérales. Les voies latérales sont très très nombreuses. D'une part, toutes les formes d'accomplissement de désir déguisées que sont le rêve, le lapsus, l'acte manqué. Je parle du Freud de 1900, hein, de cette période-là. Mais également, comme Freud le dit très bien, l'accomplissement de désir qui consiste à emprunter le très très long détour du principe de réalité, puisque lorsque la satisfaction hallucinatoire ne fonctionne pas, il y a bien un moment où il faut se débrouiller pour obtenir la satisfaction réellement. Mais alors, quel détour, quel, pour le coup, quel ralentissement, quel tempo rallongé par rapport à la voie extrêmement courte du processus primaire qui aboutit à la fabrication du rêve. Je voudrais juste dire une chose par rapport à ce que dit J.B. Pontalis là. Au fond, dit, bon, Freud jette un éclairage sur le rêve, ça, absolument d'accord. Le rêve fait peur, c'est vraiment la zone opaque. En même temps, il ne faut pas oublier que Freud, au fond, émerge, l'invention freudienne émerge sur le terreau du romantisme allemand, que le romantisme allemand a quand même développé une théorie du surrendement littéralement du rêve. C'est d'ailleurs comme ça qu'il le critique quand il revient par exemple sur Jean-Paul, l'appendice du rêve dans le cours préparatoire d'esthétique. Donc le rêve finalement a toujours fonctionné comme un pôle d'attraction. C'est exactement comme le ciel étoilé pour les physiciens.
Elisabeth Roudinesco nous disait hier que Freud était l'enfant, un, d'une critique du nihilisme thérapeutique, donc de l'impuissance des médecins face à la folie, pour le dire rapidement, deux, évidemment, de la science de son temps, troisièmement, du romantisme.
Absolument.
Du romantisme allemand.
Mais avec lequel il rompt. C'est-à-dire qu'à la fois, il en est l'héritier, et il y a une rupture. Il hérite, par exemple, de l'idée incidente, qui est la base même de l'association Libre. Il hérite des frères Schlegel, de ce point de vue-là. Et en même temps, quand on regarde l'usage qu'il en fait, et c'est évidemment dans une espèce de positivité, une conception positive de l'inconscient qui n'a exactement rien à voir avec l'ouverture sur l'infini, l'inconditionné, tel que Friedrich Schlegel, par exemple, le conçoit.
Oui, mais il y a dans le romantisme allemand l'idée que l'âme humaine est un motif d'exploration et que plus on l'explore, plus on est dans l'obscurité.
Et à plus la fois, on s'approche du créateur.
Et plus on s'approche du créateur.
Absolument. Absolument. Bon, là, Freud, rupture complète. Et pour le rêve, il en est de même quand on regarde les travaux, par exemple, de Jean-Paul Richter. Ça, c'est tout à fait net. Mais ce que je trouve tout à fait étonnant, au fond, dans l'enquête humaine, dans le regard que les hommes portent sur eux-mêmes, je trouve tout à fait extraordinaire que le rêve, finalement, ait toujours fonctionné. Je faisais la comparaison avec le ciel étoilé pour les physiciens, mais c'est vrai que la révolution copernicienne, c'est-à-dire ces espèces de grands retournements dans la pensée physique, viennent en astronomie, en astrophysique, c'est pas du tout par hasard. Il y a une espèce de captation, et c'est pareil pour le rêve. Vous prenez Aristote, les Parvanaturaya, vous prenez Artémidore, vous continuez avec les rêves, l'analyse des rêves des pollueurs nocturnes, par exemple.
Mais on peut partir de la Bible et des rêves prémonitoires de Daniel, non ? Enfin, l'analyse que fait Daniel des rêves de l'empereur.
Absolument. C'est-à-dire que, à la fois, c'est toujours opaque, et en même temps, c'est un pôle d'attraction absolument extraordinaire pour l'homme.
Dans une semaine qu'on avait fait sur le rêve, Laurence Kahn, on avait parlé des trois rêves de Descartes, les fameux trois rêves de Descartes. Alors, ce qui est très frappant dans les rêves que Descartes fait en 1619, qui sont très importants pour lui, hein, chez le penseur même de la conscience, celui contre lequel et à partir duquel aussi Freud, qu'il le veuille ou non et qu'il aime ou non les philosophes, s'est mis à penser. Descartes pratique l'analyse, l'auto-analyse de ses propres rêves et l'interprétation de ses propres rêves dans son sommeil. C'est-à-dire que Descartes s'éveille à l'intérieur de son propre sommeil, sort de son rêve pour penser son rêve. Et ensuite, quand il rapporte tout ça, il rapporte, un, le rêve, deux, le sens qu'il lui donne. Qu'est-ce que Freud penserait d'une telle démarche de la part de quelqu'un comme Descartes?
Ça, alors, j'en ai véritablement pas la moindre idée. Ce qu'on peut se demander, c'est dans quelle mesure Descartes a véritablement interprété son rêve dans le rêve. Ou bien Descartes s'est réveillé dans le demi-sommeil, a analysé son rêve, s'est rendormi et a pensé que l'analyse du rêve participait du rêve. Indécidable. Indécidable.
Narcisse veut s'embrasser, Freud essaye de se comprendre. Christophe Colomb découvre l'Amérique, Freud explore l'Atlantide et les lieux qui restent ensevelis. Descartes marche droit, d'un pas ferme et assuré, Freud zigzague et constate en dormant qu'on ne marche qu'à tâtons sur la voie royale qui mène à l'inconscient. Descartes, c'est un arpenteur géomètre qui s'aventure à la surface et fonde la conscience. Freud, c'est un spéléologue qui explore la caverne et ses faux-semblants. Descartes, c'est l'homme des récifs, c'est le marin qui crie terre du haut de son moi. Freud, c'est une autre histoire, une autre aventure, un conquistador d'un autre genre, un voyage plein d'escales mais sans but, la trajectoire peut-être erratique d'un juif errant, contraint de séjourner parmi les idées obscures. Laurence Kahn est avec nous aujourd'hui pour parler de l'interprétation des rêves ou du rêve de Sigmund Freud dans le cadre de cette semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à l'œuvre du père de la psychanalyse. Laurence Kahn, il y a à la fin de l'interprétation des rêves une phrase de Freud qui prend à rebours finalement tous les clichés, tous les lieux communs qu'on a pu avoir sur Freud, qui fait de lui finalement une sorte de... enfin de l'interprétation des rêves qui y voit une forme de dissection du rêve. Freud dit ceci, « Il nous est impossible d'arriver à éclaircir le rêve en tant que processus psychique, car expliquer veut dire ramener à du connu. » Quelle est l'ambition de l'interprétation des rêves si elle n'est pas d'expliquer les rêves, c'est-à-dire de ramener de l'inconnu à du déjà connu, du déjà su, presque, j'allais dire, du déjà vu?
Je pense que c'est la différence entre expliquer et interpréter.
Précisément, c'est pour ça que je vous pose la question.
Absolument.
Il faut le préciser parce que bien souvent, on se fait de l'interprétation des rêves une idée reçue, si vous voulez. On dit, voilà, on a un dogme sous les yeux, on a une grille interprétative ou explicative sous les yeux qui pêche justement par sa rigidité. Alors, quelle est la différence ?
Là, vous dites très très bien la chose. C'est-à-dire qu'au fond, l'interprétation va fonctionner, et c'est ce que vous disiez à propos du marché droit de Descartes et du marché en zigzag de Freud. Je dirais marché en zigzag et marcher fragment par fragment, indéfiniment. Et au fond, ce qui est vrai de sa découverte avec l'interprétation du rêve sera vrai de sa découverte concernant l'interprétation du transfert. C'est toujours, toujours, fragment par fragment que la chose inconsciente s'avance sur le devant de la scène de manière déguisée. Et on ne va pas ramener de l'inconnu à du connu.
C'est pour ça qu'il dit notre psychologie du rêve est restée incomplète. Elle le sera, fatalement.
Fatalement. Fatalement. Et c'est, d'une certaine manière, la condition même de sa productivité. Parce que l'autre terme qui vient s'opposer, au fond, à expliquer, il y en a un, c'est interpréter, et l'autre terme, c'est la notion de productivité. D'une certaine façon, ce qui intéresse Freud dans le rêve, une fois qu'il a le sentiment qu'il bute sur quelque chose dans l'analyse en particulier des hystériques, c'est cette idée que le rêve est formidablement productif, c'est-à-dire que c'est un étranger dans la maison, que manifestement, il prend à revers le moi, donc il va nous apprendre quelque chose, et que son irrationalité, si on fait l'hypothèse que c'est un acte psychique complet, doué d'un sens, son irrationalité même est productive et va faire avancer sur tous les fronts. Et effectivement, ça fait avancer sur le front de la compréhension, de l'organisation, de l'interprétation, d'un contenu psychique incompréhensible, mais ça fait évidemment aussi avancer sur le front du bâti lui-même de l'appareil psychique, puisque tout de même, le dernier chapitre, vous l'évoquiez, le dernier chapitre, c'est quand même le premier grand chapitre métapsychologique de Freud.
C'est le chapitre dans lequel sont contenues toutes les objections qu'on pourra faire à la psychanalyse ensuite.
Oui,
étonnant.
Oui, absolument, absolument. Mais je dirais... Freud passe son temps à vivre avec. Maintenant qu'on dispose de la correspondance complète de Freud et de Fliess, par exemple, outre le fait qu'on découvre avec stupeur l'intensité du transfert de Freud sur Fliess, qui va jusqu'à, à certains moments, adhérer réellement aux théories de Fliess, tout à fait bizarre, pour le moins. De l'autre côté, on s'aperçoit qu'il vit, avec ses contradicteurs, il vit avec ses détracteurs, il passe son temps à essayer de comprendre à quel endroit il n'a pas réussi à dépiller la complexité du rêve. De ce point de vue-là, c'est vrai que Freud marche en zigzag par opposition à Descartes qui marche droit.
Qui voulait marcher avec assurance en cette vie, c'était l'ambition de Descartes.
Mais quand même, la joyeuseté de ce jeune Freud-là, c'est quand même la joyeuseté d'un conquistador qui conquiert sur l'âme humaine tout un territoire et il va le rendre à la rationalité. Il va le rendre
aux lumières. Mais c'est une montagne qu'on escalade qu'en boitant.
C'est une montagne qu'on escalade qu'en boitant, absolument.
Alors, vous avez parlé de l'étranger tout à l'heure, Laurence Kahn. Il y a un rêve tout à fait étonnant, et étonnant également dans son interprétation. Et je voudrais qu'on l'évoque ici, avant de rentrer peut-être dans le détail des objections que Freud s'adresse à lui-même, ce qui est quand même très intéressant. Voici ceci. C'est un rêve rapporté par Ferenczi, justement, où Freud voit l'occasion d'un renversement d'affect. Il dit ceci. Un monsieur d'un certain âge est réveillé pendant la nuit par sa femme qui a été prise d'angoisse parce qu'il riait dans son sommeil d'un rire très bruyant et incoercible. L'homme raconta plus tard qu'il avait eu le rêve suivant. J'étais couché dans mon lit. Un monsieur connu entra. Je voulus allumer la lumière, mais je ne le pus pas. J'essayais et réessayais de le faire, en vain. Là-dessus, ma femme descendit du lit pour venir à mon aide, mais elle non plus ne put rien faire. Mais se sentant gênée devant ce monsieur à cause de son négligé, elle renonça finalement à poursuivre et se recoucha dans le lit. Tout cela était si comique que je ne pus m'empêcher de rire, d'un rire épouvantable. Ma femme dit « Qu'as-tu à rire? Qu'as-tu à rire ?» Mais moi, je continuais à rire jusqu'à ce que je me sois réveillé. Le lendemain, le monsieur était extrêmement abattu, il eut des maux de tête. « C'est tout ce rire qui m'a secoué, pensa-t-il. » Considéré analytiquement, dit Freud, le rêve paraît moins drôle. Le monsieur connu qui entre est dans les pensées du rêve latente l'image de la mort, réveillée le jour précédent, celle de la grande inconnue. Le vieux monsieur, souffrant d'artériosclérose, avait le jour précédent des raisons de penser au fait de mourir. Le rire incoercible prend la place des peurs et des sanglots à l'idée qu'il lui faut mourir, et c'est la lumière de la vie qu'il ne peut plus allumer. Cette triste pensée peut être rattachée à des tentatives de coït récemment envisagées mais ratées, dans lesquelles l'aide de la femme en négligée n'avait là non plus servi de rien. Il remarqua que pour lui les choses étaient sur leur déclin. Le travail de rêve a su transformer la triste idée de l'impuissance et du mourir en une scène comique et les sanglots en rire. Laurence Kahn, venons-en à la fin de l'interprétation des rêves et au moment où Freud se formule à lui-même une série d'objections. Par exemple, il part du principe que les rêves sont toujours l'accomplissement d'un souhait. Mais en même temps, il y a des rêves de déplaisir, des rêves de punition. Dans quelle mesure un rêve de punition peut-il être l'accomplissement d'un souhait? Chez le Freud, qui n'a pas encore intégré véritablement la pulsion de mort dans son système d'ailleurs.
De toute façon, la pulsion de mort va mettre précisément en question l'idée que le rêve est simplement un accomplissement désir. Je veux dire, avec la pulsion de mort, s'articule quasiment immédiatement une fonction de la répétition et une fonction de la liaison grâce à la répétition qui va expliquer les rêves répétitifs qui ne sont pas nécessairement des rêves d'accomplissement désir. Freud le dit très bien, je crois que c'est dans Au-delà du principe de plaisir, où il dit, c'est dans le moi et le ça, où il dit ce sont des tentatives d'accomplissement de désir. Mais la tentative peut échouer à ce moment-là. On est après 1921 et cette tentative peut échouer. C'est une tentative. Dans la Traumdeutung, clairement...
C'est l'interprétation des rêves. Hein,
dans l'interprétation des rêves, clairement, il n'y a pas, au fond, de répétition comme tentative de liaison d'un pur déplaisir qui aurait totalement échappé au maillage psychique lui-même, ce qui est le cas après 1920. Alors, un rêve de punition, si c'est l'écho que le plaisir interdit paye à la conscience qui demeure vigile bien qu'endormie, pour réussir à obtenir malgré tout, son attention et donc la satisfaction de ce désir refoulé, voilà. Mais il peut y avoir, comment dire, la nature même du châtiment varie énormément. Si vous prenez par exemple l'écart, puisque vous parlez de châtiment et que vous avez évoqué ce rêve tout à fait terrible de l'irruption de la mort et du retournement sous la forme de la joyeuseté de la jeunesse revenue et de la femme en déshabillé et de ce grand rire de plaisir pour le coup. Même type de retournement que lorsque Freud rêve, alors qu'il a une furonculose carabinée, rêve qu'il chevauche un cheval et dit « psychose hallucinatoire du rêve ». Tout est retourné, la douleur est niée et le plaisir de chevaucher. Bon, même processus. La question du châtiment, alors là, elle devient extrêmement compliquée parce que... Bon, je vais donner deux exemples,
Allez-y.
À propos de l'exemple de la mort d'une personne chère. Rêve de la mort d'une personne chère. Il y a deux versions. Une première version que donne Freud dans l'interprétation du rêve, il dit « ça, c'est pas un rêve typique. C'est un rêve déguisé. Une jeune femme rêve de la mort d'un des deux enfants de sa sœur. En réalité, ceci est la couverture d'un désir qui est de rencontrer un homme que cette femme, cette jeune femme aime et qu'elle a connu dans l'entourage de la sœur.
Écoutons juste le texte du rêve, Laurence Kahn. Vous vous souvenez que ma sœur n'a maintenant qu'un garçon, Karl, l'aîné Otto, elle l'a perdu lorsque j'étais encore dans sa maison. Otto était mon favori, à vrai dire c'est moi qui l'ai élevé. Le petit je l'aime bien aussi, mais bien sûr pas autant à beaucoup près que celui qui est décédé. Or je rêve cette nuit que je vois Karl, étendu mort devant moi. Il est couché dans son petit cercueil, les mains jointes, des cierges tout autour. Bref, tout à fait comme jadis, le petit Otto dont la mort m'a tellement bouleversé. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Vous me connaissez, n'est-ce pas? Suis-je une si mauvaise personne pour souhaiter à ma sœur la perte de l'unique enfant qu'elle a encore? Ou bien le rêve veut-il dire que je souhaiterais que Karl fût mort plutôt que Otto, que j'ai aimé tellement plus? Ça, c'est le récit du rêve.
Oui, et Freud, au fond, dégage le désir inconscient, qui est ni la mort du premier enfant, ni la mort du deuxième enfant, ni la moindre référence pour l'un ou pour l'autre, mais le souhait de rencontrer un homme qu'elle ne peut rencontrer que dans l'entourage de la sœur et dont elle ne doit pas faire l'aveu qu'elle en était prise.
Donc ce rêve terrible, en somme, il le dit, hein, le rêve que vous avez est un rêve d'impatience. Il a anticipé de quelques heures le moment de revoir l'homme que vous attendez, moment qui doit avoir lieu aujourd'hui.
Voilà, exactement. Alors, vous prenez cet exemple-là, châtiment terrible. Si Freud analysait ce rêve, mettons 10 ans, 15 ans plus tard, à mon avis, il rajouterait le fait que la sanction est figurée dans le rêve lui-même. Telle qu'est là l'analyse dans l'interprétation du rêve, la dimension, il n'y a que la dimension du désir, de l'impatience, de la réalisation, il n'y a pas la dimension de la sanction qui est quand même extrêmement lourde, hein, puisqu'il y va de la mort d'un enfant. Et néanmoins, c'est un rêve d'accomplissement de désir. Alors, vous prenez ça, malgré le déplaisir, et vous prenez de l'autre côté ce que Freud alors place au chapitre des rêves typiques, c'est-à-dire le rêve de la mort des personnes chères, qui nous remplissent d'effroi, et que Freud rattache, alors là, à la sanction des sanctions, c'est-à-dire la sanction oedipienne. C'est à ce moment-là qu'il introduit, qu'il articule le rêve de la mort du rival oedipien, que ce soit le frère, la sœur, le père, la mère, et bon, il prend absolument toutes les configurations, et il vient le rattacher à la tragédie oedipienne en montrant comment, là, on a affaire à quelque chose de stupéfiant, à un apax par rapport à la théorie du rêve, qui est le fait que le rêve donne pour contenu manifeste son contenu latent. Énorme question. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, le rêve ne déguise pas? Et là, il a une bizarre hypothèse, ça vient de, je crois...
C'est, dit-il, le mystère d'un rêve dont le sens est donné sans dissimulation.
Voilà. Et il dit, et il ajoute un peu plus loin, tout se passe comme si la conscience n'était pas préparée à de telles monstruosités et que d'une certaine façon, la censure est totalement débordée. C'est-à-dire qu'elle laisse passer sans s'apercevoir ce qu'elle laisse passer.
Madame rêve d'atomiseur. Et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel. Vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle.
Merci infiniment, Laurence Kahn, d'avoir parlé avec nous de l'interprétation des rêves dans le cadre de cette semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à Freud. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et présidente de l'Association psychanalytique de France. Quant à l'interprétation des rêves, chers auditeurs, c'est un chef-d'œuvre jubilatoire. Promenez-vous dans ces rêves. Que vous adhériez ou non à la théorie qui les accompagne, c'est un voyage qui en vaut bien d'autres, notamment par exemple le récit que Michel Léris fait de ses propres rêves. On est là dans une démarche presque romanesque.
Madame rêve.
Demain, je recevrai Michel Plomb, psychanalyste et chercheur au CNRS, à propos du malaise dans la culture, une œuvre sombre de Freud. Je signale aussi, comme à chaque fois, l'exposition Freud et Rodin, qui débute aujourd'hui et qu'on peut voir au musée Rodin, donc jusqu'au 22 février, dont France Culture est partenaire. À la technique aujourd'hui, c'était Michel Mestre. À la musique, c'était Bachung. À la réalisation, Jean-Claude Loiseau, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Léa Weinstein. France Culture, il est 17h50. Juste après le regard d'Albert Jacquard, vous avez rendez-vous avec Laurent Goumard.